La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Les conséquences de l'incarnation, troisième tableau. Les conséquences de l'incarnation. Après avoir vu les conséquences de l'incarnation au plan de l'histoire, les conséquences de l'incarnation au plan de l'art, je vous propose un domaine très complexe, c'est le problème du mal. L'incarnation a pour but de vaincre le mal. « J'ai vaincu le monde, dit le Christ. » Qu'en est-il de notre implication dans le mal? Dieu peut-il être tenu pour responsable du mal moral? Et même responsable du mal naturel, cataclysme, inondation, etc. C'est un problème majeur pour notre temps, puisqu'on considère que l'homme est responsable de la crise environnementale, du réchauffement de la planète, et donc des tsunamis, cataclysmes qui vont se multiplier, de la chape de plomb, de nuages qu'on peut avoir pendant des semaines entières, du froid qu'on peut avoir en été et du très chaud qu'on peut avoir en hiver, etc. Donc, qu'en est-il du problème du mal? Problème épineux s'il en est. Alors, je vais m'appuyer pour répondre sur l'article qui a été fait dans la revue Thomiste par le père Nicolas, le père Marie-Joseph Nicolas, dominicain, que j'ai bien connu et à qui je rends hommage ainsi en reprenant son article. C'était quelqu'un qui a connu évidemment Maritain, qui était au couvent de Rangueil et qui a écrit un article, « La liberté humaine et le problème du mal », dans l'hommage que rend la revue Thomiste à Maritain dans les années 48-49. Alors, comment penser ce problème du mal? La première chose à dire, c'est que le mal et le bien ne sont pas symétriques. Il ne faut pas les imaginer comme les deux lignes perpendiculaires, on va dire, ou les deux lignes obliques d'un triangle isocèle. Vous voyez, un triangle isocèle, vous avez donc l'angle rectangle en bas, et puis vous avez la verticale, et puis vous avez les côtés du triangle, et on pourrait dire le côté droit égale le côté gauche, le bien égale le mal. Ce serait une pensée, on va dire, dualiste, presque manichéenne, où on pourrait voir deux instances, le bien et le mal, et à l'instance du mal, on mettrait les attributs, les mêmes attributs que l'instance qui est porteuse du bien ou créatrice de bien. Donc ce manichéisme, qui est une hérésie contre laquelle va se battre saint Augustin avec ardeur, ce n'est pas le modèle chrétien. C'est-à-dire que le bien et le mal ne sont pas deux lignes symétriques. Il y a une asymétrie du bien et du mal, parce que le mal est la privation du bien. Le mal est la privation du bien, donc le bien lui est préséant ontologiquement, chronologiquement, tout ce que vous voulez, parce que ce que fait Dieu est bon. Voilà, c'est le récit, le premier récit de la création, et Dieu vit que cela a été bon, Dieu est bon, et il fait les choses bonnes. Donc le mal n'est pas symétrie du bien, ça c'est la première chose à retenir. La deuxième chose, c'est différencier le mal physique, cataclysme, inondation, incendie, etc., du mal moral. Et qu'en est-il pour le mal moral de la liberté humaine, de l'incidence que l'homme peut avoir sur son action? Est-ce que le plan de Dieu est écrit à l'avance et l'homme n'aurait pas de place? On rejoint un tout petit peu la première carte postale sur la philosophie de l'histoire, la première conséquence de l'incarnation. Et je vais donner la parole au père Nicolas, et parce que je trouve que les choses sont très clairement dites. Dieu ne s'oppose donc pas à ce que moi, créature libre, écrit le père Marie-Joseph Nicolas, dominicain, je tente de modifier le cours naturel et nécessaire des choses. Ce n'est pas modifier le plan du divin, ce n'est même pas tenter de le modifier que de prier Dieu. Car mon acte libre et ma prière font partie des éléments du plan de Dieu. Et ce qu'on appelle le cours providentiel des choses n'existe pas et n'est pas conçu avant eux. Il les contient. Je ne suis pas en face d'un événement réglé avant mon intervention libre, je suis en face d'un événement réglé avec mon intervention libre, à travers elle, que moi seul puis déterminer, parce qu'il n'a d'existence que dans le plan éternel, en dépendance de moi. L'événement futur n'a sa détermination que dans cet instant éternel où il a aussi son existence. Mais dans l'instant de la durée temporelle où je vais poser mon acte, il n'a encore ni existence ni détermination. Et cet instant de la durée temporelle, simple participation finie à l'instant éternel, est aussi celui de ma pensée, de mon calcul, de ma liberté. Là où on peut penser demain, on est dans le partiel et le successif. Et Dieu, qui voit tout dans la plénitude de la vérité, ne voit pas mon présent avant mon lendemain, mais il le voit comme engendrant mon lendemain. Je suis donc beaucoup plus dans la vérité, en me représentant le plan de Dieu comme en train de se dérouler avec ma collaboration, qu'en me le représentant comme déjà fait sans moi. Ma première représentation est la vérité, telle qu'elle peut apparaître dans le temps. La seconde est l'attribution à la pensée éternelle de ce que serait un plan conçu dans un instant du temps. Est-ce que vous sentez que le nerf de la guerre de ce texte, c'est la différence entre conception dans l'éternité, dessein de Dieu, et existentialité, incarnation, application temporelle, et dans ce jaillissement à l'existence, ce surgissement dans l'existence, il y a toute la part de liberté de l'homme. Donc ici, l'homme a une incidence radicale sur le cours des choses, et donc sur le mal moral. Il y a une intervention de l'homme, une orientation de l'homme pour le monde. Il va orienter le monde de tel côté ou de tel autre. Alors, quel est l'apport de Maritain dans cette façon de voir cette coopération, cette importance de la liberté de l'homme? Eh bien, Maritain va utiliser une expression qu'il appelle « instant de nature ». Ça ne vient pas de lui, ça vient de la scolastique, et c'est de dire que on peut, dans l'éternité, où tous les instants sont présents, leurs liens de dépendance et de conditionnement mutuel demeurent. Mais voilà comment poursuit le père Nicolas. Tel être est, pour tel autre, sa raison d'exister. Dieu veut que ceci arrive après cela, et que ceci arrive à cause de cela, et dans tous les genres de causes. Et cette interdépendance fait partie de leur être. Son étalement dans le temps qui la manifeste ne la constitue nullement. Et là même où il n'y a pas cet étalement, mais simultanéité, il peut y avoir interdépendance. On appelle instant de nature ou instant virtuel un découpage que fait notre esprit dans un phénomène complexe et simultané pour concevoir, à l'image de l'ordre de succession temporelle, ce que cet ordre manifeste, qui est l'ordre de dépendance causale. Les mots de priorité, d'antériorité, sont pris du langage de la durée, pour exprimer ce qui crée souvent la succession, la relation d'origine, de principiation ou de dépendance. C'est pourquoi on parle aussi bien de priorité de nature que de priorité logique. La seconde expression faisant ressortir le procédé artificieux de l'esprit, la première l'objet qu'il peut saisir ainsi et qui est l'ordre intérieur le plus profond de l'être. Il y a autant de réalité dans cet ordre logique de nos concepts que dans ces concepts eux-mêmes dont l'objet pourtant n'existe pas à part. Ici, autre manière d'articuler l'éternité, on va dire la prévision, sur l'histoire, sur l'existentialité. Voilà, c'était un texte un petit peu ardu, mais qui vient donner le décor à la question du mal, c'est-à-dire la première chose, c'est la liberté de l'homme, le fait que l'homme puisse avoir un impact sur le cours de l'histoire et donc une incidence au plan moral. Que va apporter le mystère de l'incarnation par rapport au mal moral dont l'homme est responsable? Eh bien, la notion de pécheur sauvé, et c'est cet équilibre qui doit rester maintenu. Les tendances pour insister sur trop de fautes, c'est-à-dire la notion uniquement de pécheur, c'est la tendance, on va dire, volontariste, hein, qu'on peut faire aller via Saint-Augustin jusqu'au jansénisme. Et l'autre, hein, sauvé, alléluia, Jésus est un copain, c'est oublier la croix. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus... qui oublie pécheur pour rentrer uniquement dans une joie de surface. Une joie qui n'est pas une joie profondément ontologique. Donc le juste christianisme, le juste mystère de l'incarnation, la juste conséquence du mystère d'incarnation, c'est de tenir les deux. Comment ? Alors revenons à ce que dit le père Marie-Joseph Nicolas, dominicain, dans cet article « La liberté humaine et le problème du mal » qu'on en trouve dans la revue Thomiste, le numéro hommagial de l'année 48-49, rendu en hommage à Maritain. Que retenir des thèses thomistes? Premièrement, que le mal est une privation, la nature proprement privative du mal moral, qui nous oblige donc, du point de vue métaphysique, à une dissymétrie dont je parlais au début de l'émission, dissymétrie radicale entre la ligne du bien et la ligne du mal. Le mal est une privation, qu'est-ce que ça veut dire? Il est toujours dans du bien. Il est la déformation de ce qui est. Il est la privation de ce qui devrait être. Il est la déception en ce à quoi l'être prétendait. La production du mal comporte toujours celle d'un bien, d'un être doué de quelque bonté et de quelque valeur. Mais en même temps, avec ce bien apparaît une lacune, un trou d'être, le néant de quelque chose. La cause propre de cette lacune ne peut être qu'un retrait de causalité, une déficience dans la cause, un néantement, dit Maritain, pour exprimer la réalisation d'un néant, d'un non-être, d'un manque d'être. Le mal, dit saint Thomas, n'a pas de cause efficiente, mais seulement une cause déficiente. Le mal se vérifie dans toutes les catégories de l'être. Il est très distinct de l'imperfection, qui est la simple absence d'un bien ou d'une perfection, car il est l'absence de ce bien et de cette perfection qui devrait être hic et nunc réalisée. Le mal est toujours relatif à un sujet qui le subit, qui le souffre. Quand ce sujet est doué de conscience et d'appétit, le mal devient la douleur, la souffrance. La douleur, la souffrance pourrait se définir comme le sentiment de ce qui manque ou de ce qui contredit l'impulsion de l'appétit vers son bien. Donc jusqu'à présent, rien de nouveau. Par rapport à la doctrine classique, Maritain approfondit ce manquement, cette privation, dans un petit fascicule qu'il a écrit à Toulouse, qui s'appelle « Dieu et la permission du mal ». Justement, le titre vient mettre en cause Dieu. comment comprendre cette permission du mal? Peut-on dire que Dieu n'est pas responsable de la déficience dont je suis certes la cause volontaire et immédiate, mais à laquelle j'étais déterminée par ma nature même de créature, abandonnée à elle-même? Cette école thomiste évite-t-elle le parallélisme fatal entre la ligne du bien et la ligne du mal? Dieu n'y apparaît pas comme la cause efficiente du mal moral, mais moi non plus. Le mal n'a de cause que déficiente. Si je suis la cause déficiente seconde, qui m'empêchera de dire que par la soustraction non motivée de son secours, Dieu est la cause déficiente première? Je veux bien que je reste libre et responsable quand je fais le mal, comme je le reste quand je fais le bien. Mais si Dieu est le responsable premier de mon mérite, comment ne l'est-il pas de mon démérite? Les thomistes de l'école plus modérée ont eu vivement conscience de cette difficulté. Alors comment comprendre l'idée de Maritain? Maritain fait une distinction qui est particulièrement subtile. Il s'agit de la recherche que fait saint Thomas de la racine du mal dans l'acte libre humain. Comment expliquer que ce qui est bon fructifie soudain en mal? C'est que déjà, avant d'agir, la volonté s'était dérobée à la considération de quoi? Eh bien, dit Maritain, de la règle. Cette considération de la règle, ce regard sur la loi qui s'entrecroise avec la vue du bien désiré, est ce qui me détermine à bien faire. Je ne puis pécher qu'en cessant volontairement de considérer la règle morale de mon acte et en faisant pratiquement abstraction. Dans ce sens, saint Thomas admet qu'on ne pêche que par ignorance. Mais cette non-considération en tant que précédant mon acte et le rendant possible n'est pas encore elle-même pécamineuse. Considérer la loi n'est obligatoire qu'au moment d'agir. Voilà donc une négation, un défaut de lumière ou plutôt de regard qui n'est pas encore moralement coupable et qui va le devenir au moment où se déclenche dans cet état, mon action. Ne considérant pas la règle, je n'ai plus devant les yeux que le bien désirable pour moi. Disons plus, de ces deux éléments d'inconsidération de la règle et du choix positif mauvais, l'un précède l'autre. D'abord dans l'ordre du temps, ensuite dans l'ordre de la nature. C'est parce que je ne considère pas la règle que je choisis mal. Ou plutôt, la malice de mon choix vient de son dérèglement qui s'enracine dans mon inconsidération volontaire. C'est cette distinction qui va permettre à Maritain d'introduire une notion qui est complexe, celle de la motion brisable. Qu'est-ce que la motion brisable? Il y aurait des motions divines brisables, explique le père Joseph Nicolas, Marie-Joseph Nicolas, dominicain, c'est-à-dire auxquelles la volonté libre peut se dérober ou au contraire se soumettre. Des motions dont la frustrabilité inclut une permission conditionnelle du péché. Ne parlons pas des influences divines qui viennent par l'intermédiaire des influences créées extérieures et qui concourent à motiver un acte libre dans un sens ou dans un autre. C'est la nature même de la liberté de pouvoir s'y dérober. La motion divine vers ce bien n'est que commencée par ses premières touches divines et peut rencontrer mille obstacles avant d'aboutir. Maritain sait très bien qu'entendu dans ce sens, l'idée de motion brisable ne rencontrerait pas le moindre obstacle parmi les thomistes. Un complexe de secours divins successifs et ordonnés les uns aux autres en vue d'un bien ultérieur et définitif est essentiellement brisable en cours de route par suite d'obstacles qui empêchent les premières motions de fructifier dans les suivantes. Mais Maritain, ici, parle de cette motion divine qui actue immédiatement l'acte libre lui-même, et c'est d'elle qu'il dit qu'elle est brisable, que la volonté libre peut la néanter, pourvu qu'on distingue deux moments dans l'acte libre. Premier moment, la volonté libre applique l'intelligence à considérer la règle. Second moment, la volonté libre choisit d'agir dans tel ou tel sens. Au premier moment, si la volonté n'a pas néanté sous l'impulsion divine qui ne manque jamais, qui ne cesse d'activer l'existant, de tendre à le porter à sa plénitude, elle atteint le but immédiatement visé par cette motion brisable qui est de faire considérer la règle. Alors, au second moment, la motion divine fructifie en motion imbrisable et porte la volonté à choisir en considérant la règle, donc à agir bien. Si au contraire, dans le premier moment, la volonté s'est dérobée à l'activation divine, alors celle-ci est brisée, c'est-à-dire qu'elle n'aboutit pas, du moins à cet effet qui était la considération de la règle. Là, entre le premier moment et le second, se place la permission divine, non plus la permission conditionnelle impliquée dans la frustrabilité de la motion, mais la permission pure et simple, absolue, de laisser se continuer l'acte libre, selon son dynamisme physique, selon les motifs ou objets que la non-considération de la règle laisse seule dans le champ de vision pratique de l'existant libre. Voilà comment comprendre cette importance de l'action humaine, donc de la liberté humaine, dans le mal moral, tout en gardant le dessein divin. Donc ici, ce sont des extraits qui sont élaborés, développés, on va dire, dans le court traité de l'existence et de l'existant, à partir de cette notion de motion brisable. Je vous cite une dernière citation qui permet de résumer. Dans le cas où la motion divine n'a pas été brisée, au fond, l'existant créé n'apporte rien de son propre fond, ne fait rien, n'ajoute rien, ne donne rien, pas une ombre d'action ou de détermination venant de lui, qui de la motion brisable ferait une motion imbrisable ou mordant définitivement sur l'existence. Ça, c'est un extrait du court traité. Pour Maritain, la motion brisable fait connaturellement place à une motion imbrisable par le seul fait qu'elle n'a pas été empêchée de produire son effet. La volonté peut refuser par un non-acte, elle ne peut pas accepter par un acte qui viendrait d'elle seule. Aucune juxtaposition entre ce qui viendrait de la créature et ce qui viendrait de Dieu. Donc, aucun acte moralement bon n'est produit sinon sous l'empire d'une motion imbrisable. Le temps de la motion brisable est celui qui est antérieur à l'ordre moral, c'est celui, vous l'avez compris, de la considération de la règle ou de sa non-considération. Ce à quoi tend la motion brisable est la considération de la règle, et cette considération n'est encore que la racine du bien et du mal. Une fois dépassé ce moment, la faillite de la volonté libre n'est plus possible. La racine du péché est en effet dans cette inconsidération qui n'est pas encore le péché et qui est surmontée par le succès de la motion brisable. Donc ici, différents moments dans la considération de la règle ou dans sa non-considération. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut s'échapper de la considération de la règle ? Eh bien, je reviens à la même conclusion que dans les deux autres cartes postales. C'est la vie d'oraison. Plus la vie d'oraison fait quand dans le soi profond, il y a une inhabitation trinitaire à laquelle on peut laisser de plus en plus de place, un espace pour qu'elle puisse agir, plus la considération de la règle sera bonne et moins il y aura de chances de faire le mal moral.